La Guémara dans Sanhédrin, page 94a. Ah ouais, c'est un passage, je vais vous le dire oralement, donc c'est pas, vous n'allez pas vous en faire, mais c'est un texte très important. C'est dans Sanhédrin, Tzadik Dalet Amoud Aleph, 94a. Là-bas, la Guémara traite d'un verset du prophète Yeshaya ou Isaïe. De quoi s'agit-il? Vous connaissez cette particularité de la langue hébraïque, il y a ce qu'on appelle des lettres finales. Il y a des lettres qui ne s'écrivent pas de la même manière à la fin d'un mot qu'au milieu du mot. Et il y a combien de lettres comme ça avec des, qui ont des finales?
6.
3, 6,
5,
5, 1. Donc ici, il y a plusieurs opinions qui ont été formulées. Une opinion dit 3, une autre opinion dit 6, et deux opinions ont dit 5. Donc dans ce cas-là, on va aller selon les nombreux, je ne dirais pas la majorité, mais enfin, ceux qui ont dit 5, il y a 5 lettres de ce genre, qui sont les lettres Mansepar, Mem, Nun, Tzadik, Pe, Kaf, non, il y a deux manières de dire, soit Kimnapetz, Kaf, Mem, Nun, Pe, Tzadik, soit Mansepar, Mem, Nun, Tzadik, Pe, Kaf. Voilà, c'est, enfin, il y a 5 lettres de ce genre. Nous allons nous occuper d'une des 5 lettres, la lettre Mem. La lettre même, quand elle est au milieu d'un mot, au début d'un mot, est ouverte. Quand elle est à la fin d'un mot, elle est fermée. Elle a la forme d'un carré. N'est-ce pas? Vous avez un verset dans le livre d'Isaïe qui parle du roi Ézéchias, en hébreu, Hizkiyahu. Le roi en question, Hizkiyahu, faisait partie... son petit royaume, le royaume de Juda, avec la Jérusalem comme capitale, était un tout petit royaume qui était sous la domination de l'empire assyrien. Et donc, le royaume n'était pas véritablement indépendant, il faisait partie d'un empire, et ça se traduisait par un tribut que de manière permanente, fixe, le roi Hizkiyahu devait envoyer à l'empereur assyrien. L'empereur de l'époque s'appelait merci beaucoup. En hébreu, il s'appelait Sanhérib. Sanhérib, dans les Bibles en français, c'est Sennachérib. D'accord? Mais Sanhérib. Un beau jour, le roi Hizkiyahu se révolte, c'est-à-dire qu'il refuse d'envoyer le tribut. Le roi Sanhérib arrive avec une armée gigantesque de plusieurs centaines de milliers de soldats. Et après avoir fait la conquête de la majorité de la Judée, avoir détruit plusieurs forteresses, il s'attaque à Jérusalem, dont il fait le siège. Pendant la nuit, une épidémie décime son armée, 185 000 morts. Et le roi Sanhérib quitte la Judée avec ce qu'il reste de son armée et il se fait assassiner dans son palais dans la ville de Ninive. Résultat, le royaume de Juda retrouve son indépendance. Le prophète Yeshayahu déclare « Les marbé à Misra ou le shalom en ketz, à celui qui a abondance de pouvoir, qui amène une paix éternelle, Alkissé David sur le trône de David, Valmamlarto et sur son royaume, Leachinota pour l'établir, ou le Saada et la soutenir, Bemishpat ou Vitztaka, par justice et charité, Kinat Hashem Tsevot à ses hôtes, c'est le zèle de l'Éternel des armées qui fera tout cela. N'essayez pas de vous rappeler tout le verset. Ce que dit le verset en substance, c'est que le roi Hizkiyahu, qui est de la descendance de David, doit devenir un roi qui amènera la paix universelle. Un roi de la dynastie de David qui amène la paix universelle. Ça s'appelle comment en hébreu? Le Mashiach. Voilà. C'est-à-dire que le prophète considère que Hizkiyahu sera ce roi tellement désiré, le Mashiach. Et donc la grande guerre de Sanhérib sera considérée comme la dernière des grandes guerres de l'histoire, celle de Gog et Magog, annoncée par le prophète Ézéchiel, et bien ça se fera déjà du temps de Hizkiyahu. Et pour dire tout cela, il emploie l'expression « l'émarbé à Misra » à celui qui est abondant en pouvoir. Celui qui est abondant en pouvoir, c'est le Mashiach. Maintenant, le mot « l'émarbé » s'écrit « lamed, mem, resh, bet, he » à celui qui abonde. N'est-ce pas ? « L'émarbé ». « Lamed, mem, resh, bet, he ». Là, il y a une petite particularité. C'est le seul cas dans toute la Bible où un « mem » est un même final au milieu du mot. C'est-à-dire, vous avez le marbé et vous avez là-bas un même final au milieu du mot. Le marbé à Misra. C'est comme si le mot était coupé en deux. C'est le marbé. Alors, la Guémara explique que c'est comme si le prophète avait voulu dire un mot qui n'a pas pu finir. Un mot important qui commence par « même » et qui désigne un personnage important dans l'histoire. Mashiach. Mashiach. C'est comme si le prophète a voulu dire « le Mashiach » et puis ça s'est coincé, ça lui aurait rentré dans la gorge. Il n'a pas pu dire ce mot-là. Alors la Guémara explique que Dieu a voulu faire de Hizkia le Mashiach et de Sanhérive Gog et Magog, mais que quelque chose a empêché que ça se réalise. C'est quoi ? Eh bien, la Guémara dit la Midat Hadin, la rigueur, s'est présentée devant l'Éternel et a dit comment, alors que David, Ben Ishaï, roi d'Israël, qui a dit tant de louanges devant toi, tu ne l'as pas fait, Mashiach, Hizkia, à qui tu as fait tant de miracles et qui n'a pas voulu réciter de cantique, tu vas le faire, Mashiach. Et c'est pour cela que le même s'est refermé. Ça veut donc dire que, si on traduit ça de manière très simple, Hizkiyahu n'a pas voulu dire le Hallel pour l'indépendance. C'est son refus de dire le Hallel à Yom HaAtzmaout qui l'a empêché de devenir le Mashiach. N'est-ce pas ? C'est ce que dit la Guémara. Maintenant, le problème est, il y a ici beaucoup de problèmes autour de ce texte de la Guémara. Je vous assure que c'est écrit, hein, je n'invente pas. Le problème, c'est qu'est-ce qui embête Hizkiyahu ? Pourquoi il ne veut pas dire le Hallel alors qu'il a retrouvé son indépendance ? D'accord ? Pour la Guémara, c'est une évidence, quoi. Ça va de soi qu'il aurait dû dire le Hallel, il n'a pas voulu le dire. Pourquoi ?
Faire des louanges, c'est forcément Hallel ?
Alors, là-bas, l'expression, c'est Shira. Shira. Le mot Shira est employé, qui veut dire un cantique, est employé dans le traité de Megillah, page 14a, pour désigner le Hallel. C'est quand la Guémara demande pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le Hallel à Purim ? Et là-bas, la question c'est Uma me'avdut lecherut amru shira. Puisqu'ils ont récité un cantique en sortant de l'esclavage à la liberté. Donc on voit bien que la Guémara dit que le Hallel c'est la shira. Shira c'est le Hallel. Alors, mimita lechaim, quand on est passé de la mort à la vie à Purim, puisqu'on redoutait l'extermination, le kol sheken a plus forte raison. Donc on voit que la Guémara emploie de manière libre aussi bien le mot Shira que le mot Hallel pour dire la même chose. Mais ta remarque est juste, parce qu'il y a un texte, hein, c'est incroyable quand même ce boucan là. Qu'est-ce qu'on fait ? On leur jette de l'huile bouillante ?
Ou on leur demande.
Hein ? Une Guémara ? Oui, mais quel traité ? Bava Batra, c'est le plus lourd. D'accord ? Donc, je reprends, il y a un texte dans le traité de Pessahim, Daf Kufiyut Zainam, c'est à toi que je parle, fils, c'est pour t'expliquer la chose. Il y a dans le traité de Pessahim, à la page 117a, la Guémara dit en toutes lettres que Hizkiyahu a dit le Hallel. Contrairement à ce texte de Sanhédrin que je suis en train de vous enseigner, dans lequel il dit que Hizkiyahu n'a pas dit le Hallel, c'est écrit en toutes lettres dans Sanhédrin, dans Pessahim, pardon, qu'il a dit. Alors, une des interprétations que j'ai entendues de la part du Rav David Ben Ezra, c'est que le texte dans Sanhédrin dit le mot Shira, tandis que dans Pessahim, il y a écrit Hallel. C'est vrai que c'est le même texte, mais il l'a dit en tant que Hallel et pas en tant que Shira. Ça veut dire quoi ? Comme Hizkiyahu était religieux, et que le prophète lui a dit qu'il fallait dire le Hallel, il l'a dit. Il était fidèle à l'instruction de la Halakha. Mais ça ne lui venait pas des tripes. Ça ne venait pas des profondeurs de son être. Il n'arrivait pas à s'identifier, à adhérer au Hallel. Donc il a dit le Hallel, mais il n'a pas dit la Shira. Et c'est ça qui est grave, qui l'empêche d'être le Mashiach. absolument incroyable cette histoire. D'abord, pourquoi? Alors, il y a ici énormément de questions. Pourquoi est-ce qu'il a voulu dire le Hallel? À part ça, pourquoi est-ce que c'est ça qui le disqualifie d'être le Mashiach? C'est un point de rituel, non? C'est comme si on dit, vous savez, il n'a pas dit Miché Bérard pour celui qui est monté à la Torah en Hamishi, alors à cause de ça, on le vire, il n'est plus le rabbin de la communauté. Il y a une disproportion. D'accord? Il n'a pas voulu dire le Hallel, il n'est pas Mashiach. Bizarre. Bon, on va essayer de commencer un début de réponse à tout ça. Je suis sûr qu'il y a une suite après dans la Guémara, si on a le temps, on y arrivera. Tout d'abord, à quoi ça sert le Mashiach, d'après vous, hein? Réaliser la Géoula, la justice, le Tzedek, oui. Rassembler les exilés. À régner sur Israël, construire le Beth Amikdash. Gog et Magog, guerre contre Amalek. Est-ce que je peux résumer tout ce que vous dites en un mot? Régler tous les problèmes. D'accord? C'est-à-dire, le Mashiach, il a un rôle important, il règle tous les problèmes. Bon, maintenant, ma petite question, quand est-ce qu'on commençait les problèmes? Adam Arishon, n'est-ce pas? Lors de... Le premier homme a déjà fait des problèmes, et depuis, on a des problèmes, n'est-ce pas? Le premier problème d'Adam Arishon, c'était le péché, n'est-ce pas? Bon, ma petite question n'est pas quel était le péché d'Adam Arishon, parce que ça, vous le savez, c'était le fruit de la connaissance. Ce que je voudrais savoir, quel était le deuxième péché d'Adam Arishon?
La délation.
La quoi?
La délation, il a planté sa femme.
C'est pas vraiment ça, il a l'ingratitude. L'ingratitude. Il a dit, c'est la femme que tu as mis avec moi qui m'a donné du fruit que j'ai mangé. N'est-ce pas? Et Rachid dit, Kan Kafar Batova, c'est là qu'il a nié le bienfait. Maintenant, à nouveau une petite question. Vous savez qu'on avance par petites questions. Qu'est-ce qui est plus grave quand quelqu'un fait des péchés? Le premier ou le deuxième? Le deuxième, évidemment. Parce que le premier péché qu'on fait, on est quelque peu irresponsable, on n'a pas encore l'expérience du péché. Mais la deuxième fois, ça c'est la vraie révolte. Donc quel est le péché le plus grave d'Adam Arishon? L'ingratitude. Donc tous les problèmes ont commencé dans l'histoire par l'ingratitude. C'est quoi le tikkun de l'ingratitude? La gratitude. Donc c'est quoi l'épreuve du Mashiach? De capable de dire le Hallel à Yom HaAtzmaut. Maintenant on va continuer un peu plus. Pourquoi précisément ça? C'est vrai que, et si Adam Arishon, son deuxième péché avait été par exemple, je sais pas, n'importe quoi d'autre, pourquoi forcément cette histoire de gratitude et d'ingratitude? Pourquoi c'est tellement important chez Adam Arishon? Vous savez, est-ce que Dieu peut faire quelque chose à ma place? Tout. Il peut tout faire à ma place. Par exemple, si j'ai faim et que je veux être rassasié, qu'est-ce que je fais? Je mange. Maintenant, si Dieu veut que je sois rassasié sans manger, il le peut ou pas?
Oui.
Il le peut. Donc, en fait, tout Dieu peut faire à ma place. Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire à ma place.
Le remerciement.
Il ne peut pas se dire merci à lui-même. C'est-à-dire, ce qui fait que je me manifeste comme étant un être totalement extérieur à Akadosh Baruch Hu, c'est ma capacité de dire merci. C'est en cela que je suis mis à l'épreuve. Là, je voudrais rentrer avec vous dans une considération métaphysique. Vous savez que d'après le judaïsme, le monde est créé. Vous savez ça? Le monde est créé. Une des significations corollaires au fait d'être créé, ça veut dire que le monde n'est pas Dieu. Oui, si le monde est une créature, donc il n'est pas le créateur. Donc, créer, ça veut dire réaliser quelque chose qui est extérieur à Dieu. N'est-ce pas? Vous savez d'ailleurs, je suppose que vous le savez, que je ne suis pas Dieu, et que vous aussi d'ailleurs, vous n'en êtes pas. Vous n'êtes pas des dieux, n'est-ce pas? Nous sommes des créatures. Donc, s'il y a un projet dans la création, si on peut dire que Dieu a réussi son projet, c'est quand la créature est véritablement indépendante. Elle doit donc acquérir le mérite de son être. Ma question maintenant est la suivante. Est-ce qu'une carotte est véritablement une créature? Non, puisque elle vit, elle reçoit sa vie du Créateur. La carotte est un exemple. La laitue, par exemple, ou le chou, ou même un chat. Alors, l'homme aussi, au départ, mais l'homme a quelque chose de particulier. Il a le libre arbitre. Et en tant qu'homme libre, je suis autonome. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui choisit pour moi, c'est moi qui choisis. Et donc, je peux, grâce à mon choix, mériter mon être. Donc, c'est l'homme qui, de toutes les créatures, a pour enjeu de mériter son existence. Et donc, de permettre la réussite du projet de la création. Donc, quand l'homme est capable de remerciement, c'est là que le monde a été véritablement réussi. Vous avez compris ? D'où l'importance de la récitation du Hallel par celui qui doit devenir le Mashiach. Vous avez compris ? Bon. Maintenant, continuons un peu plus. Exactement. Véritablement extérieur. Et à travers lui, tout réussit. Il y a une différence de vocabulaire chez les kabbalistes entre Beruim et Nivraim. Les deux se traduisent par créature. Mais Baru, c'est celui qui reçoit sa vie du Créateur. Nivra, c'est celui qui se crée lui-même. Qui arrive à se créer. D'accord ? Maintenant.
Si l'homme crée quelque chose.
Oui.
Alors, comment ça se passe ?
Par exemple, tu fais un enfant.
Bah
oui, tu as créé quelque chose, tu as participé à l'œuvre de la création. C'est-à-dire, Dieu t'a donné la vie, maintenant tu vas la donner. D'accord ? Et non, ce n'est pas si simple, ce n'est pas toujours évident ce que je dis là. C'est-à-dire, il faut être capable de gratitude quand c'est l'homme qui fait tout. C'est-à-dire, quand. Un exemple tout bête. Vous savez qu'il y a dans le calendrier juif des jours fériés. Je vois ? Bon. Il y a un jour. Qui commémore la création du monde? C'est quel jour? Hein? Non. Le Shabbat. Le Shabbat, c'est le jour qui commémore la création du monde. Qui a créé le monde? Akadosh Baruch Hu. Qui l'a aidé? Personne. Il a fait ça tout seul, n'est-ce pas? Comme il a fait ça tout seul, c'est-à-dire que moi, en tant qu'homme, je n'ai pas participé. Pour intégrer la sainteté du Shabbat, qu'est-ce que je dois faire ? Je ne dois rien faire. Je cesse toute activité humaine. Un homme normal, c'est celui qui travaille. Le Shabbat, je ne fais rien, aucune œuvre. Comme je ne fais aucune œuvre, alors je peux ressentir la sainteté de ce jour où Dieu est le seul à agir. Passons à la deuxième phase. Il y a dans la Torah ce qu'on appelle des mo'adim, des jours de fête, qui commémorent tous les événements de la sortie d'Égypte, n'est-ce pas ? Qui a fait la sortie d'Égypte ? Hachem. Qui l'a aidé ? Nous. C'est nous qui l'avons aidé. Parce qu'au moment où Dieu a dit de sortir d'Égypte, qu'est-ce qu'ont fait nos ancêtres ? Ils sont sortis. Ils ont marché. S'ils n'avaient pas marché, qu'est-ce qui se serait passé ? Il n'y aurait pas eu de sortie d'Égypte. Il n'y aurait pas eu ni Pessah, ni Shavuot, ni Sukkot, et tout ça. On serait resté là-bas. Donc il y a une participation minimale de la créature à l'événement. Donc 95% a été fait par Akadosh Baruch Hu, mais 5% par les hommes. Petite question. Qu'est-ce que je dois faire pour le jour de Yom Tov, pour ressentir la sainteté du jour ? Je dois annuler 95% de mes activités. Mais il y a 5% que je peux faire. Je peux faire la cuisine. Je peux faire passer un objet dans la voie publique. Et je peux allumer le feu. C'est-à-dire, il y a une partie, faible quand même, mais une partie quand même, des activités qui me sont interdites le Shabbat, qui me sont permises à Yom Tov. Pourquoi ? Parce que l'événement commémoré amène une certaine participation de l'homme à l'œuvre de la création, à l'événement, pardon. Bon, et puis plus tard, il y a eu un autre événement, l'événement de Pourim, quelques siècles plus tard, après la sortie d'Égypte. Qui a fait l'événement de Pourim ? Nous avons écrasé nos ennemis, nous avons zigouillé 75 000 Amalécites, pas mal quand même, d'accord ? Quels sont les travaux interdits à Pourim ? Sauf deux. Non. Il y a deux travaux qui sont interdits à Pourim, par Minhag seulement. On ne plante pas d'arbres et on ne construit pas de maison à Pourim. Parce que ça appartient à Eretz Israël. Or, l'événement s'est passé en Chutz Laaretz. Alors, on peut quand même pas, c'est indécent, le jour de Pourim, qui commémore un événement qui s'est passé en Chutz Laaretz, de construire des maisons, de planter des arbres, alors que c'est une activité d'Eretz Israël. Mais enfin. Oui, il y a eu un peu de ça, un peu de Yom Tov, oui. Mais finalement, ça a été annulé, l'histoire du Yom Tov. Comment ? Qu'est-ce qui a été annulé ? Non, il y a Mina, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Mais, quoi, Pessah ? Quoi, Pessah ? Ouais, bon. Et puis, un peu plus tard, il y a eu un autre événement, c'est la fête de Hanouka. Ça commémore quoi, la fête de Hanouka ?
L'indépendance.
L'indépendance, et puis quoi encore ? La fiole, n'est-ce pas ? La fiole d'huile. La victoire a été faite par qui ? Par les Maccabées, par des hommes, d'accord ? Conclusion, quels sont... Et la fiole, ça a été fait ? Par Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Donc, quels sont les travaux interdits à Hanouka ? Aucun, sauf pendant que les lumières sont allumées en souvenir de l'histoire de la fiole, pendant cette demi-heure-là, les femmes ne travaillent pas. Pourquoi les femmes ? Parce que les femmes ne font pas la guerre. D'accord ? Donc, il reste quand même quelque chose. Et lors de la fondation de l'État d'Israël, qui a fait l'État ? 100% les hommes et 100% la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la Kedusha, qui commence par le Shabbat, qui passe par les Moadim, qui après traverse Purim et Hanouka, cette Kedusha, cette sainteté, arrive à son indépendance. C'est le jour de l'indépendance. L'indépendance de la Kedusha. Ça veut dire que c'est le moment de la réussite du projet de l'histoire. Donc, quelle est la fête la plus importante du calendrier ? Yom Ha'atzmaut. C'est-à-dire, si cette fête est exploitée pour la reconnaissance de la main d'Akadosh Baruch Hu à travers notre œuvre à nous. C'est-à-dire, quand je vois un miracle, par exemple, je ne sais pas, il y a une carotte qui, au lieu de tomber, reste en l'air. Alors, évidemment, je dis, Akadosh Baruch Hu est intervenu. Mais si, quand les lois de la nature ne sont pas bouleversées, comme ça s'est passé lors de la guerre d'indépendance, et que malgré tout, je suis capable d'être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu, c'est là qu'il y a une réussite totale du projet de l'indépendance de la création. D'accord ? Vous avez donc compris. Maintenant, il y a deux manières de nier ce que je dis. Il y a ce qu'on appelle la négation de la valeur de sainteté de ce jour. Il y a deux manières de le faire. Il y a une manière laïque et une manière religieuse. La manière laïque consiste à tenir le discours suivant. Camarades, n'allez pas imaginer que ce serait Dieu qui aurait fondé cet État, alors que c'est le Palmar. D'accord ? Ça, c'est le discours anti-religieux qui considère que l'État d'Israël est le fruit des efforts du Palmar. Il y a un discours religieux, qui est également hérétique, qui dit la chose suivante. C'est quand même pas Akadosh Baruch Hu qui a fondé l'État d'Israël, alors que c'est le Palmar. Plugot Machat, c'était les groupes de choc de la Haganah. Les groupes de choc de la Haganah. C'était le début de Tzahal. D'accord ? C'est exactement le même argument, mais avec une intonation différente et des associations différentes dans l'esprit, mais c'est en fait la même chose. C'est-à-dire, on peut, pour des raisons religieuses, nier la valeur de Yom Ha'atzmaut. D'accord ? Dans les deux cas, c'est de l'hérésie par-ci, de l'hérésie par-là. Mais c'est la même chose. Jusque-là, vous m'avez suivi ? Très bien. Maintenant, revenons à notre ami Chizkiyahou, le roi d'Israël, roi de Juda plus précisément, qui lui refuse de dire le Hallel pour son indépendance. C'est absolument incroyable ce qui s'est passé. Alors qu'en plus, là-bas, c'était vraiment miraculeux. À mon avis, il y a trois interprétations plausibles pour expliquer le refus de Chizkiyahou. Toutes ont des sources dans les enseignements de nos Chachamim, et là, on va passer les unes après les autres. Les trois opinions, enfin, les trois interprétations que je peux donner sont, d'une part, une interprétation religieuse, une interprétation gauchiste et une interprétation de droite. D'accord ? Vous avez trois manières de justifier le refus de dire le Hallel. Et les trois, probablement, ont convergé chez Chizkiyahou. Alors tout d'abord, apprenez quelque chose. Qui était Chizkiyahou? D'après la Gemara dans le traité de Berachot et dans le traité de Pessahim, Chizkiyahou n'était pas n'importe qui, c'était un roi extrêmement religieux. Son père, le roi Achaz, était idolâtre. Et quand il a pris le pouvoir, Chizkiyahou, il a investi tous les budgets de l'État dans les Talmudé Torah. À tel point, dit la Gemara, qu'on a vérifié dans toutes les frontières d'Israël et on n'a pas trouvé un seul enfant qui ne connaissait pas par cœur les règles de la pureté et de l'impureté. Un roi vraiment religieux. Le prophète Yeshayahu, qui décrit l'époque de Chizkiyahou, dit que le pays entier est rempli de ronces. Allez, je n'ai pas pu finir le mot. Est rempli de ronces et d'épines, hein, parce que tout le monde étudie la Torah. Plus personne ne travaille, tout le monde étudie la Torah. Et puis, la Gemara dit qu'il a même planté une épée dans la maison bédouine, dans le Beit HaMidrash. Il a dit ceux qui n'étudient pas la Torah seront transpercés de cette épée. Donc, l'étude de la Torah est devenue l'activité unique de tout l'État. D'accord ? Donc, c'est un roi très religieux. Qu'est-ce qui intéresse donc Chizkiyahou dans la vie ? La religion. Maintenant, l'indépendance, c'est un événement religieux ou politique ? Politique. Vient le prophète Yeshayahu, il dit au roi Chizkiya, tu sais, il faut dire le Hallel. Le Hallel, mais pourquoi ? Bah parce qu'on a retrouvé l'indépendance politique. L'indépendance politique, c'est de la politique, c'est pas de la Torah. C'est-à-dire, il a du mal à s'identifier avec la sainteté d'un événement politique. Et donc, il refuse, au nom de la Torah, de dire le Hallel. Vous avez compris ? Oui ? Ah bon, d'accord. Ah, un peu d'air. Bon.
Mais il ne s'identifie pas du tout en étant roi.
Il justement, il est roi par accident. C'est-à-dire, il a eu de la chance, il est né roi, il a été mis sur le trône, il y a beaucoup d'argent, donc on va s'en servir pour la Torah. D'accord ? Là, c'est la première interprétation qui cadre tout à fait avec la personnalité de Chizkiyahou telle qu'elle est décrite par la Gemara. Deuxième interprétation possible. Vous savez comment s'est passé le miracle ? Chizkiyahou se lève le matin, alors que le soir, les armées du roi assyrien siègent sous sa fenêtre. Bien embêté, Chizkiyahou fait la prière, il demande à Kadosh Baruch Hu d'intervenir, et il s'en va dormir. Je ne sais pas comment est-ce qu'on est capable, lorsqu'on a une armée sous sa fenêtre, une armée ennemie sous sa fenêtre, d'aller dormir, mais enfin c'est ce qu'il a fait. Et il ouvre le matin les persiennes. Et qu'est-ce qu'il voit ? 185 000 cadavres. Vous avez déjà vu un amoncellement de cadavres ? Horrible. Ça fait un effet bœuf. Même si c'est ses ennemis, c'est difficile à voir. Le prophète vient, le tapote sur l'épaule et lui dit : Chizkiyahou, il faut dire le Hallel. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi il ne peut pas ? Il y a un texte dans le traité de Megillah, page 20b, Amar Rabbi Yochanan, qui est que lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge et que les Égyptiens ont été engloutis, les anges du service ont voulu réciter un cantique. Et Akadosh Baruch Hu leur a dit : les œuvres de mes mains se noient dans la mer et vous allez réciter un cantique. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, ça lui fait mal quelque part quand une partie de sa créature, une des nations de l'histoire, disparaît. Et donc Dieu n'a pas autorisé les anges du service à réciter un cantique. Et qu'est-ce qu'ont fait les enfants d'Israël, eux ?
Ils ont chanté.
Ils ont chanté, Shiratayam, qu'on dit tous les jours. Et c'est très bien de l'avoir récité. D'accord ? Quelle est la différence entre nous et les anges ? C'est que nous, on est concernés. Ça nous concerne. C'est nous qui avons été sauvés par cet événement. Donc, celui qui est sauvé par l'événement doit remercier l'Éternel. Maintenant, les anges, ils ne font pas partie du jeu. Dieu leur dit : de quoi vous vous mêlez ? Ce n'est pas votre histoire. Vous n'avez pas le droit de chanter. Maintenant, Chizkiyahou, en tant que Mashiach, il doit tenir compte de la vie de qui ? Du gauchisme d'en haut ou bien de la joie nationale de son peuple ? Il doit tenir compte de la joie nationale de son peuple. Mais lui, il fait le calcul de ce qui se passe en haut. Comment est-ce qu'on le sait ? Dans le traité de Berachot, page 10a, Il est dit que Chizkiyahou ne voulait pas avoir d'enfants parce qu'il savait que ses enfants seraient des Réchaïm. Et le prophète lui a dit, de quoi tu te mêles? Ça, c'est les secrets de Dieu. Tu dois faire ce que tu as ta mitzvah. Or, la mitzvah, c'est d'avoir des enfants, donc tu vas en faire. D'accord? Ça veut dire que nous voyons une tendance chez Chizkiyahou à tenir compte des réalités métaphysiques supérieures et pas de la joie nationale subjective du peuple. Or, si on est un roi, on doit adopter la subjectivité de son peuple et pas tenir compte des souffrances, même celles de Dieu, quand une partie de la création disparaît. D'accord? Donc ça expliquerait le refus de Chizkiyahou de dire le Hallel. Il dit, je ne peux pas dire le Hallel puisqu'il y a eu des morts chez l'ennemi. D'accord? Troisième interprétation. Oui, ça c'est de gauche, c'est du gauchisme. C'est-à-dire, nous tenons compte de la subjectivité de l'adversaire. Il faut comprendre sa souffrance. Ça ne veut pas dire qu'au niveau métaphysique, ce n'est pas vrai. Mais au niveau du peuple d'Israël, ce n'est pas vrai. D'accord? Troisième interprétation du refus de Chizkiyahou. Ça va, Léo? Bon, troisième interprétation du refus de Chizkiyahou. C'est vrai que l'événement du retour de la Judée à l'indépendance était un événement heureux, mais il y a eu quand même, du temps de Chizkiyahou, il y a eu un des plus grands malheurs de l'histoire d'Israël. C'est quoi? La chute du royaume du Nord. Vous savez, quand vous lisez dans la Bible, il y avait deux royaumes en Eretz Israël à l'époque. Il y avait le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Et le royaume du Nord, avec 10 tribus, a été détruit par les Assyriens. C'était du temps de Chizkiyahou. Comment est-ce qu'il a été détruit? La population n'a pas été massacrée, elle a été exilée. C'est-à-dire le roi d'Assyrie a exilé les 10 tribus et les a envoyées dans une contrée lointaine. Alors Chizkiyahou, on lui dit, il faut que tu dises le Hallel parce que tu as été sauvé. Il dit, oui, mais quand tant de Juifs ont été évacués de leur maison, j'ai du mal à dire le Hallel. C'est par fierté nationale. Comment? Tout cela, toutes ces implantations ont été vidées, toute la Samarie est vidée, et tu veux que je dise le Hallel? D'accord?
C'est par quoi?
Quoi? Par fierté nationale. La fierté nationale de Chizkiyahou est blessée par cette évacuation des Juifs, par cette expulsion des Juifs de Samarie. D'accord? Donc, il ne peut pas se réjouir. Oui?
Ils étaient un peu en guerre encore ou pas?
Il y avait aussi des guerres entre eux. Mais d'un côté, c'était nos frères. Alors, si je comprends bien, les trois interprétations sont plausibles. Mais qu'est-ce que ça veut dire, alors, cette histoire de la Guémara? Ça veut dire que, bien qu'il y a des bonnes raisons de ne pas dire le Hallel, elles sont toutes mauvaises. C'est-à-dire que le travail du Mashiach aurait été justement de surmonter ces prises de position et d'être capable de dire le Hallel, même si tu considères que c'est un événement politique et pas religieux, même si tu considères qu'il y a une souffrance dans le ciel à cause de la chute des ennemis, et même si tu es conscient des autres malheurs du peuple juif. Mais là où Dieu t'a sauvé, tu dois te réjouir, tu dois le remercier. D'accord? Jusque là, vous me suivez? Bon. Je vais continuer donc dans le texte de la Guémara. Ce texte que vous n'avez pas devant les yeux. Mais je pense que vous devez me faire confiance, que je vous invente pas n'importe quoi. Maintenant, surtout que, comme je vous ai dit, la page dans le traité de Sanhédrin où ça se trouve, vous pouvez très bien, après, vérifier que je ne vous ai pas menti. Donc, il n'y a aucun risque. D'accord? Maintenant, la Guémara raconte que, malgré tout, la terre s'est proposée pour dire le Hallel à la place de Chizkiyahou. Amda ha'aretz lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, maître du monde, Ani Omar Shira Tachat Tzadikze. Je vais dire un cantique à la place de ce tzadik. Va Asehu Mashiach et fait de lui le Messie. Et on amène pour cela un verset, Mikenaf ha'aretz zimirot shamanu tsevil tzadik. Des confins de la terre, nous avons entendu un cantique pour remplacer le tzadik. C'est vide à tzadik. Et ça veut dire quoi que la terre a récité un cantique? C'est qui la terre? Quoi? Si quelqu'un me dit aujourd'hui, au Machon Meir, qu'il a entendu la terre chanter, non seulement je suis un peu inquiet, mais je convoque les services médicaux qui vont s'occuper de la personne. D'accord? Donc, C'est quoi que la terre a récité un cantique? Hein? Le peuple, voilà. La terre, c'est le peuple. Dis-lui que je ne suis pas là. Ouais. Et donc, le peuple a récité le cantique à la place du dirigeant. C'est-à-dire, il peut y avoir un dirigeant religieux qui n'est pas conscient de son devoir de dire le Hallel, mais le peuple dit à sa place. Il y a un instinct comme ça, naturel dans le peuple, qui est de la reconnaissance. Il y a un petit problème. Alors la Guémara dit, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que, si la terre a dit, le Hallel, alors pourquoi est-ce que finalement Chizkiyahou n'est pas devenu le Mashiach? Et la Guémara répond, c'est parce qu'il faut qu'il y ait deux destructions et deux reconstructions. C'est-à-dire que le temple doit être détruit, reconstruit, et détruit, reconstruit. Mais alors dans ce cas-là, si Chizkiyahou avait dit le Hallel, on aurait pu dominer ce déterminisme. On aurait pu faire... L'histoire aurait pu être achevée quand même. Mais ça veut dire que si l'histoire se passe selon son ordre naturel, il faut attendre quelques milliers d'années. Après les milliers d'années, même si le dirigeant ne veut pas dire le Hallel, si le peuple le dit à sa place, ça suffit. Mais du temps de Chizkiyahou, c'était trop tôt pour que ça se fasse sans la, participation du roi. D'accord ? En tout cas, ça veut dire ça, de tout ce texte que nous venons pour l'instant d'étudier, nous comprenons l'importance de la récitation du Hallel à Yom HaAtzmaout, non pas comme un petit élément de liturgie, mais comme l'aboutissement de l'histoire. Jusque-là, vous me suivez ? D'accord. Maintenant, je voudrais aller un peu plus loin. Pourquoi est-ce que l'événement de la fondation d'État d'Israël s'est produit lorsqu'il s'est produit? C'était quand? 5708, le 5 Iyar de l'année 1948. N'est-ce pas? En chrétien, c'est 1948. En juif, 5708. Le 5 du mois de Iyar, 14 mai. Il y a dans le livre de Bereshit, vous avez là-bas une description de l'ordre de la création, n'est-ce pas? Ça se fait en 6 jours, qui sont le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième jour. Et puis après, ça aboutit à un état qu'on appelle le septième jour. Vous vous rappelez de tout ça? Le septième jour, c'est quoi? C'est l'histoire. Le septième jour, c'est le septième jour. C'est ce qu'on appelle une tautologie. C'est quoi une tautologie? C'est Toto d'Avar. C'est ça? Pour en revenir à le septième jour, c'est le temps de l'histoire, c'est-à-dire le temps où HaKadosh Baruch Hu cesse de créer, et c'est l'homme qui agit à sa place, n'est-ce pas? C'est ça le septième jour. Pendant ce septième jour, l'homme doit réaliser le projet de la création, et nous n'allons pas revenir sur ce que nous avons étudié dans l'étude de Bereshit. Maintenant, combien de temps doit durer le septième jour? 6000 ans. Pourquoi 6000 ans? Pour que l'homme, pendant les 6000 ans en question, réalise ce que HaKadosh Baruch Hu a réalisé lui-même pendant les 6 premiers jours, n'est-ce pas? Donc, le septième jour dure 6000 ans, et donc chaque millénaire ressemble à un des 6 jours de la création. C'est ça? Les jours de la création se divisent en deux parties. La nuit et le jour, n'est-ce pas? Dans quelle partie de la journée, d'après la description de la Torah, Dieu crée-t-il? Pendant la nuit ou pendant le jour? Pendant le jour. Maintenant, le jour, la nuit, c'est quel pourcentage de la journée? 50%, d'accord? C'est-à-dire que, si on réfléchit bien, ça veut dire que dans chaque millénaire, pendant les 5 premiers siècles, il ne se passe rien d'important, et que tous les événements importants se passent dans la deuxième partie du millénaire. Jusque-là, vous me suivez? C'est absolument exact. Vous n'avez qu'à lire, vous n'avez qu'à étudier l'histoire, et vous verrez que tous les événements importants dans l'histoire se sont toujours produits dans les deuxièmes parties de chaque millénaire. Pas pendant la première partie, mais pendant la deuxième partie. Ouvda. Ouvda. Tout simplement, prenons le premier millénaire. D'accord? Il ne se passe rien pendant les premières 500 ans. D'accord? Mais pendant la deuxième partie, c'est là que va naître Noach, et qui doit préparer la transformation du monde. Dans le deuxième millénaire, entre l'an 1000 et l'an 1500, il ne se passe rien. Mais entre 1500 et 2000, alors là, tu as le déluge, tu as Abraham Avinu, tu as le Sodome et Gomorre, etc. Babel, toutes ces histoires-là, ça se passe pendant la deuxième partie. Après, oui. Quoique. Ah, parce qu'il écrit Vaïaïre, Vaïboker, il fut soir, il fut matin. Et alors, à Kadosh Baruch Hu crée, Vaïomer Elohim. Etc. Et donc, on voit que c'est comme ça pour chaque moment de l'histoire, jusqu'au moment où on arrive au sixième jour, au sixième millénaire. Donc, le sixième millénaire, ça correspond à la création de l'homme. D'accord ? La réalisation donc, du projet de l'humanité, c'est pendant le sixième millénaire, mais dans la deuxième partie du sixième millénaire. C'est-à-dire à partir de l'année 5500 jusqu'à l'année 6000. D'accord ? Plus précisément, 5501. Ben, il ne s'est rien passé, c'était le Moyen-Âge, mon cher ami. D'accord ? Il y a quand même un moment intéressant, c'est le moment de minuit. Minuit, ça correspond à la découverte de l'Amérique et à l'exil des Juifs d'Espagne. Quand même intéressant. C'est à ce moment-là que ça se passe. C'est-à-dire quand on sort, au milieu de l'obscurité, on se dirige vers la lumière. À partir de là, donc, nous avons entre l'année 5501 et l'année 6000, nous avons donc 12 heures. Chaque heure correspond à combien d'années ? 500 divisé par 12, ça vous fait 41 et 2 tiers, c'est-à-dire 41 années et 8 mois. À chaque fois, on change d'heure. Maintenant, le Midrash nous explique comment s'est fait la création de l'homme. Lors de la première heure de la journée, dit le Midrash, Dieu a rassemblé la poussière qui sera l'homme du monde entier. Lors de la deuxième heure, il a pétri cette poussière. Il en a fait une sorte de glaise, de boue. Lors de la troisième heure, il a formé ses organes. Lors de la quatrième heure, il lui a insufflé un souffle de vie. Et à la cinquième heure, l'homme s'est levé. Ça correspond à quelle année ? 5708, la fondation de l'État d'Israël. Le Gaon de Vilna explique dans son commentaire du Sifra d'Etzniouta, qui est une partie du Zohar, il dit « Si tu observes ce que dit ce Midrash sur la création de l'homme, tu sauras quand est-ce que viendra la Géoula. » Il dit simplement « Je fais jurer le lecteur, au nom du Dieu d'Israël, de ne pas révéler cela. » Il y a eu deux Chachamim à Vilna qui ont révélé le secret et qui sont morts dans les deux jours. D'accord ? Alors comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui révéler ce secret ? Parce que ça s'est déjà passé. Voilà, ça s'est déjà passé. D'accord ? Vous avez compris ? C'est très simple. Donc, les dates sont connues à l'avance. Nous savons quand est-ce que ça doit se passer. Simplement, je veux dire que c'est pas si simple de dire des choses pareilles parce que parfois ça fait des catastrophes. Il y avait à Jérusalem, en l'année 1840, une effervescence messianique absolument dingue. Pourquoi ? Parce que les Juifs à Jérusalem étaient persuadés qu'en 1840, le Mashiach reviendrait. Pourquoi ils étaient persuadés ? Eh bien parce que ils avaient lu dans le Zohar qu'en l'an 600 du 6e millénaire, c'est-à-dire l'année 1840, les portes de la sagesse s'ouvriraient dans le monde et que le monde se préparera à rentrer dans le 7e millénaire. Donc ils ont compris ce texte du Zohar comme signifiant le Mashiach va venir en l'année 5600, c'est-à-dire 1840, en Goy. En 1840, le Mashiach n'est pas venu. Résultat, deux des élèves du Gaon de Vilna à Jérusalem se sont convertis au christianisme, par déception. Nous avons retrouvé une lettre écrite par un des élèves du Gaon de Vilna qui était à Londres à ce moment-là et qui correspond avec un des deux convertis au christianisme. Il lui dit, mais enfin, tu es complètement cinglé, qu'est-ce qui t'a pris ? Nous savons par notre maître que le Mashiach viendra lorsque il y aura, sera passé le double du temps de la naissance du roi David. Je reprends. Vous savez que le mot Adam, c'est les initiales de Adam, David, Mashiach. Conclusion, le roi David doit naître au milieu de l'histoire entre Adam Harishon et la Géoula. D'accord ? Quand est-ce qu'il est né, le roi David ? Hein ? En 2924. D'accord ? Vous multipliez par deux, ça vous donne 5708, ce qui est la fondation de l'État d'Israël. Enseignement donc du Gaon de Vilna de deux côtés. Ça, c'est simplement par curiosité. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a une certaine logique dans l'histoire à ces moments-là. D'accord ? Ça, c'était pour Yom HaTzmaout. Maintenant, je vais vous dire encore autre chose. Il y a une coutume, beaucoup de coutumes autour de Yom HaTzmaout. Alors évidemment, vous avez le Hallel. Alors, le Hallel, c'est une des tentatives. Maintenant, le problème, c'est que ça concerne seulement les religieux. Et même pas tous les religieux sont d'accord. Alors il y a des ballons aux couleurs bleu-blanc. Ça ne marche pas tellement. Il y a des petits marteaux comme ça qui font pipe. Ça, on se fera avec des marteaux. Ridicule. Ça ne marche pas. Il y a une coutume qui, elle, a pris dans tout le public israélien. 91% des Israéliens, le jour de Yom HaTzmaout, font des grillades, n'est-ce pas, à la hache. C'est le truc, dans tout Israël, de la viande grillée sur des braises. Vous savez, cette histoire. Il y a quand même un roi HaKodesh dans cette histoire. Il y a un texte du Rav Kook qui explique, à propos de Moshe Rabbeinu. Vous savez que Moshe Rabbeinu était quelqu'un qui avait la peau dure. Il ne se laissait pas briser facilement. Par exemple, quand il a vu le veau d'or, c'est très embêtant le veau d'or, mais il sait très bien ce qu'il faut faire. Bon, on voit ça, bon d'accord. Alors on casse les tables, on tue 3000 personnes, on fait la prière, on remonte sur la montagne, on amène des deuxièmes tables et on les introduit dans le tabernacle. Voilà, bon, il y a tout un projet, il sait qu'est-ce qu'il faut faire. Pourtant, c'est de l'idolâtrie, c'est une violation flagrante de l'interdiction entendue au Sinaï et tout ça. Et puis, il y a un moment dans la vie de Moshe où Moshe craque. C'est quand le peuple lui demande de la viande. Ça, dans le livre de Bamidbar, le peuple demande de la viande et Moshe dit à Dieu, je veux que tu me tues. Horgenina harog. Mets-moi à mort. Ça, je ne peux pas supporter. Qu'est-ce qu'il y a de tellement difficile ? Il ne demandait pas de la viande pas cachère, il demandait de la viande cachère. Ils ont demandé de la viande. Alors, le Rav Kook explique que ce qui a brisé Moshe, c'est que la demande de la viande, c'était de la chutzpah, de l'effronterie. Et Moshe ne sait pas réagir à la chutzpah. Et comme il ne sait pas réagir à la chutzpah, il n'a pas pu être le Mashiach, parce que le Mashiach, c'est celui qui reconnaît la sainteté qui se cache au sein de la chutzpah des enfants d'Israël. Vous savez que les Israéliens sont réputés pour la chutzpah. C'est-à-dire, il y a, dans le fait même d'ailleurs de décider de sortir de l'exil et de refonder l'État, une sorte d'effronterie terrible. Il faut aller contre les rabbins, il faut aller contre l'évidence politique, contre toute logique, et décider de fonder un État. C'est un moment de chutzpah. Et c'est là que la chutzpah a réussi. Et ça explique pourquoi le peuple d'Israël, quand il ressent qu'il doit remercier le Créateur pour ce qu'il nous a fait, eh bien, le peuple d'Israël décide justement d'agir par juste ce comportement qui a brisé Moshe parce que c'était de la chutzpah. Et c'est là que c'est récupéré, c'est là que ça réussit. Maintenant, il y a un autre élément dont je ne vais pas vous parler parce que ça demanderait beaucoup de temps, mais simplement une information. Vous savez que tout un débat, c'est qu'il faut faire le Hallel le soir ou pas. Alors, au Machon Mir, ils ne font pas le Hallel le soir. Et moi, je défends l'opinion comme quoi il faut faire le Hallel le soir comme à Pessah. C'est pour ça que chaque année, j'organise une prière collective au Kotel, dans laquelle on dit le Hallel le soir. L'année dernière, on avait 5000 personnes. Cette année, nous espérons avoir le double. Si vous venez, mais ça, je ne vais pas vous le dire, parce que ça serait quand même vous mettre mal avec le mahram. Mais enfin, ceux qui veulent venir, c'est libre. Voilà, shalom. Voilà. Comme un Pessah. Parce que c'est la... ça, j'ai des longs, très longs articles que j'ai écrits là-dessus, des débats avec des rabbins, comme quoi c'est un signe du fait que c'est la dernière des délivrances. Comme c'est la dernière délivrance, il faut faire le halal le soir, mais ça, ça serait un sujet pour lequel je ne peux pas m'étendre maintenant, surtout que Laura Partouche veut vous dire quelque chose. N'est-ce pas? Salut.